L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, la Belgique qui favorise la prise en charge des victimes de l'amiante. En Suisse, les ennuis de gouvernance au sommet d'UBS, la principale banque du pays. Au Canada, les inquiétudes sur l'avenir de la compagnie Air Transat. On verra aussi comment Léonard de Vinci, mort en France il y a 500 ans, peut encore rabibocher les deux pays, France-Italie, souvent brouillés pour des raisons politiques. Enfin, nous irons au Burkina Faso qui vient de créer un label pour le pagne local. Voilà pour le programme francophone. Bienvenue à tous. Au Maroc, Hugo Lanoë, une pétition a été signée par 140 personnes pour dénoncer les pressions que subit l'historien Mahati Mondjib.
Professeur à l'université Mohamed V de Rabat, Mahati Mondjib est aussi à la tête de Freedom Now, association de défense de la liberté de la presse. En 2015, le ministère de l'Intérieur lui interdit de quitter le Maroc. Mahati Mondjib entame alors une grève de la faim d'une vingtaine de jours. Quatre ans plus tard, bis repetita, cette fois-ci, le ministère de l'Enseignement le menace de licenciement pour être venu en France, mi-février, assister à la soutenance de thèse d'une chercheuse de l'école normale supérieure. Mahati Mondjib se dit persécuté, poursuivi pour atteinte à la sécurité de l'État avec plusieurs journalistes, il attend toujours son procès, reporté une quinzaine de fois.
En Suisse, Pierre Anchoffat, le ministre des Affaires étrangères, revoit la stratégie de l'aide au développement.
Installé aux commandes du département depuis 18 mois, le libéral radical Ignacio Cassis continue en effet d'y imprimer sa patte. Après des prises de position polémiques sur le dossier palestinien, il veut réorienter la coopération internationale vers plus d'efficacité. D'une part, en concentrant les moyens sur moins de pays, mais aussi en développant un lien entre l'aide au développement et la problématique migratoire, un des quatre piliers voulus par Ignacio Cassis qui agit comme un chiffon rouge pour la gauche.
En France, les critiques s'accumulent autour du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Le voilà désormais accusé d'avoir voulu dramatiser une séquence pour mieux détériorer l'image des Gilets jaunes lors des dernières manifestations du 1er mai. Le ministre a en effet accusé des manifestants d'avoir attaqué une salle de réanimation d'un hôpital parisien. Sauf que la réalité semble tout autre. Certes, la barrière de l'hôpital a bien été forcée, mais les dizaines de manifestants qui se sont introduits dans l'établissement cherchaient surtout, a priori, a trouvé refuge dans cet hôpital pour se protéger des gaz lacrymogènes. Le ministre lui-même a dû préciser un peu plus tard que le mot « attaque » n'était finalement pas approprié. Et plusieurs voix d'opposition parlent d'incompétence du ministre et il réclame sa démission. En Belgique, Nathalie De Vic, un petit génie des mathématiques a fait parler de lui cette semaine.
Oui, il s'appelle Bernard Fabreau, inconnu au bataillon. Pourtant, il vient de réaliser un véritable exploit en parvenant à résoudre une énigme mathématique vieille de 20 ans. Un casse-tête cryptographique créé par le laboratoire d'intelligence artificielle du MIT au Massachusetts, lequel avait estimé, figurez-vous, qu'il faudrait au moins 35 ans avant que cette énigme soit résolue. En fait, il n'a fallu que 3 ans à notre autodidacte pour y arriver, après en avoir pris connaissance. Un savant calcul séquentiel dont je vous fais grâce ici, rassurez-vous. En tout cas, la résolution du code ouvrira dans 15 jours une capsule temporelle contenant, paraît-il, des petits trésors d'informatique et de jeux vidéo. On dit cocorico.
Au Canada, Benoît Audet, c'est une fillette, et on ne rit plus, c'est une fillette de 7 ans qui a retenu votre attention cette semaine.
Oui, une petite dont on ne peut révéler l'identité, mais qui a été retrouvée morte en début de semaine. La fillette était connue des services sociaux. Son père et sa belle-mère font maintenant face à des accusations dans cette affaire. La mort de la petite a causé une onde de choc au Québec. La direction de la protection de la jeunesse est montrée du doigt. Le gouvernement a d'ailleurs ordonné une enquête publique pour tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer.
La Belgique, Nathalie De Vic, la Belgique a adopté cette semaine des mesures importantes en faveur des victimes de l'amiante.
L'amiante, responsable aujourd'hui encore de nombreux cancers, près de 350 nouvelles victimes diagnostiquées chaque année. Le Parlement a donc décidé d'élargir la liste des maladies reconnues et donc indemnisables liées à une exposition à ce matériau trop longtemps utilisé dans nos constructions. Cela fait 20 ans qu'il est interdit chez nous, mais il ne s'efface pas sans mal. Ses fibres restent présentes dans beaucoup d'habitations, entraînant bien plus tard des tumeurs variées comme les mésothéliomes à l'estomac, au cœur, mais aussi, et c'est désormais prouvé, des cancers du poumon et du larynx. Désormais, les victimes pourront également bénéficier d'indemnités plus généreuses, augmentées de 10 000 euros. Seul regret pour Eric Jonker, qui préside l'Association belge des victimes de l'amiante, la difficulté toujours de se défendre en justice.
Si vous demandez l'aide du fonds, vous devez automatiquement renoncer à toute action judiciaire, sauf si vous pensez pouvoir prouver une faute intentionnelle du pollueur. Là, vous pouvez éventuellement faire quelque chose au pénal.
Une faute intentionnelle toujours très difficile à démontrer. On connaissait mal les dangers de l'amiante à l'époque. Véritable bombe à retardement, puisqu'il faut entre 20 et 40 ans, pense-t-on, après exposition pour qu'un cancer se déclare. L'amiante a déjà fait des milliers de victimes en Belgique, mais le pire ne serait pas encore atteint. L'association qui les représente, ces victimes, estime que leur nombre devrait atteindre son pic le plus élevé dans les années 2030-2035.
En Suisse, c'est un camouflet pour les dirigeants d'UBS, la première banque du pays. En effet, les actionnaires ont refusé de décharger la direction de ses responsabilités. Ça veut dire quoi, Pierre Anchoffard ?
Eh bien, d'abord, c'est un fait rarissime. Il faut en effet remonter à la crise financière de 2008 et au sauvetage de la banque par l'État pour assister à l'expression d'une telle défiance. Cette année, ce sont les suites de la condamnation du géant bancaire en France qui était sur toutes les lèvres. Une amende salée de 3 milliards 700 millions d'euros pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale. Même si UBS a fait recours contre cette condamnation à Paris, eh bien les actionnaires ont ainsi voulu préserver leur droit de se retourner contre les dirigeants.
Alors Pierron, comment a réagi la direction de la banque après ce vote sanction ?
Eh bien, plutôt en faisant profil bas, je dirais. Le président d'UBS, Axel Weber, a dit comprendre ce refus qu'il interprète comme, je cite, « l'expression de l'inquiétude des actionnaires ». Moins diplomate, Vincent Kaufmann l'analyse comme un vrai ras-le-bol. Acteur clé de cette fronde, il dirige la fondation Ethos.
Le signal est très fort et je pense que cette pression, là, le conseil d'administration le ressent. Il comprend les actionnaires, il va rentrer en dialogue, mais on voit aussi derrière que les actionnaires en ont marre. Les affaires s'accumulent, il n'y a pas que la France. Il y a encore les amendes qu'on va devoir risquer de payer aux États-Unis pour les affaires des subprimes. Il y a 2 ans, le Crédit Suisse a payé 2 milliards. L'UBS, la condamnation n'est pas encore tombée. Donc les risques sont toujours là. Ça s'accumule, on ne voit pas le bout du tunnel. Donc il y a aussi, je pense, un ras-le-bol des actionnaires.
Les véritables propriétaires des entreprises qui deviennent donc un peu moins dociles, et pas qu'en Suisse. On l'a vu la semaine dernière en Allemagne, où les actionnaires du groupe Bayer ont désavoué la direction après la délicate reprise de l'américain Monsanto et de ses pesticides.
C'était il y a 500 ans cette semaine, le 2 mai 1519, en France, mourait Léonard de Vinci, le génie universel des arts et des sciences. Né en Italie, Vinci est mort en France donc, où le roi François Ier l'avait accueilli les dernières années de sa vie. Et bien 500 ans après donc, alors que les relations sont tendues entre le gouvernement français et le gouvernement italien, populiste et d'extrême droite, le président français a invité cette semaine son homologue italien Sergio Mattarella au château de Chambord, puis au château d'Amboise et enfin au Clos Lucé, dans cette belle bâtisse où est donc mort Léonard de Vinci. Une visite diplomatique, histoire d'apaiser les tensions et une façon aussi donc de renouer avec ce qu'on appelle en France la diplomatie des grands monuments, en abordant mine de rien un sujet de discorde entre les deux pays, la question des migrants.
Le destin même de Léonard de Vinci, c'est le symbole aussi de ce que la France doit à l'Italie, ce que notre Renaissance doit au génie italien, et ce que nous nous devons d'ailleurs de manière réciproque. Charles VIII, Louis XII avant sont allés en Italie et y ont eux-mêmes apporté ce que la France pouvait y apporter. Et c'est montrer aussi que dans les grands moments de notre histoire, c'est la circulation des génies, des grands artistes, de celles et ceux qui portent un universalisme en même temps que des goûts très particuliers qui a fait notre Europe. Et je crois que c'est cet esprit qu'il ne faut pas oublier. Et donc je souhaite que les génies d'aujourd'hui et de demain puissent continuer à avoir les destins à la Léonard.
Voilà donc un exemple français de diplomatie dite des grands monuments au château de Chambord cette semaine pour renouer donc les liens avec l'Italie. Il y a eu des précédents en France avec Donald Trump invité à la Tour Eiffel ou le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, invité à dîner récemment à Paris avec le président Macron au musée du Louvre. Des inquiétudes au Québec sur l'avenir du transporteur aérien Air Transat. Le président de la compagnie a entamé des discussions préliminaires avec des acheteurs potentiels. Pour autant, Benoît Audet, cette annonce ne signifie pas encore que la compagnie sera nécessairement vendue, hein.
Non, mais c'est quand même une première étape en vue d'une vente éventuelle. L'Air Transat a été fondée dans les années 80 et elle a toujours appartenu à des intérêts québécois. Au début, la compagnie desservait essentiellement des destinations soleil, mais elle a considérablement étendu son réseau. Air Transat offre maintenant des vols vers plusieurs destinations européennes, entre autres.
Et cette transaction potentielle a une signification toute particulière pour le premier ministre François Legault.
Oui, il faisait partie du groupe qui a fondé Air Transat il y a 33 ans. Il a vendu ses parts dans l'entreprise en 1997 quand il a fait le saut en politique. Il s'est dit préoccupé par la possibilité qu'Air Transat soit vendu à des intérêts de l'extérieur du Québec, mais il a ajouté qu'il ferait tout pour garder le siège social de l'entreprise à Montréal.
Oui, c'est bien une situation délicate pour le gouvernement. Hein.
Oui, quand il était dans l'opposition, le premier ministre Legault a toujours accusé le précédent gouvernement de ne pas en faire assez pour protéger les sièges sociaux au Québec. Déjà, le gouvernement n'a pas exclu de donner un coup de pouce si jamais des investisseurs québécois devaient se montrer intéressés à acheter Air Transat. D'ici là, il y a toujours une part d'incertitude pour les 5000 employés de la compagnie.
Produire et consommer local. Au Burkina Faso, le gouvernement a décidé de labelliser le pagne traditionnel, le Faso d'Amfani. Il s'agit avant tout, Hugo Lanoë, de préserver l'identité culturelle et aussi de sauvegarder des emplois.
Oui, car en Afrique, les contrefaçons et la concurrence déloyale sont légion dans le secteur du textile. Avec les pagnes produits à l'étranger, les commerçants de la capitale, Ouagadougou, ont vu leur chiffre d'affaires baisser.
Vraiment, c'est inquiétant parce que les gens ont vu que le Faso d'Amfani est en train de prendre de l'ampleur. Voilà que les gens ont commencé à aller faire fabriquer ça à l'extérieur.
Vu que les motifs sont un peu copiés. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent prendre des tissus occidentaux, prenant que c'est du Faso d'Amfani.
Justement, comment distinguer le Faso d'Amfani des tissus imprimés hors du Burkina? Pour répondre à cette question, le ministère du Commerce a une petite idée. Un logotype, un catalogue de motifs issus du terroir burkinabé, le tout protégé sous forme de marque collective. Mahamadi Tassembedo, directeur du Centre national pour la propriété intellectuelle.
En plus de ce label qui fera l'objet de protection, il y aura des catalogues de motifs issus des différentes régions de Burkina. Ils feront l'objet également de protection au même moment.
À travers ce processus de labellisation, le Burkina Faso entend consolider plus de 30 000 emplois et par là même rendre hommage à son ancien président Thomas Sankara.
Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique.
Le défunt président du pays des hommes intègres, Thomas Sankara, sous les applaudissements au siège de l'Union africaine, c'était en juillet 1987, 3 mois avant son assassinat.
Voilà donc pour l'actualité francophone de la semaine. Merci à tous les contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous francophone, ce sera la semaine prochaine, au même endroit et à la même heure.